Je voulais commencer par un petit film que j'ai découvert à la télé suisse-allemande. Et c'est un petit reportage où on sent que ça dérange un peu la journaliste qui le fait parce qu'il y a de plus en plus de jeunes gens qui découvrent la foi. Gen 7, Gen Z, ouais, la génération Z entre 15 et 30 ans, ils appellent ça. Alors, essayons voir ce que ça donne. Le son n'est pas très important, mais j'ai fait un peu de traduction en bas pour que vous puissiez lire. C'est un peu parler très rapidement et peu compréhensible. Voilà. Il y a de plus en plus des gens qui se tournent vers Jésus. Et maintenant, il me manque quand même une partie. Là où elle a fait cette interview dans cette église, elle rencontre une personne qui dit, ben, simplement, avant, je ne savais rien et maintenant, je veux suivre ce Jésus. Maintenant, elle est dans un atelier de manicure et elle découvre, voilà, ce qui est écrit là. We love because he first loved us. Nous aimons parce qu'il nous a aimés. Elle pose la question à cette fille, mais pourquoi tu as suspendu ça? Et puis sa réponse est que oui, je crois à un Dieu qui aime, qui nous aime vraiment, et je crois que c'est important que je le partage. Ça fait partie de moi. Et puis maintenant, elle rencontre encore une personne avec des dépressions. Et qui dit, ben, c'est seulement grâce à la foi que je suis sorti de la dépression. Et cette personne décrit, cette jeune décrit que c'est venu comme ça. Elle a simplement ne plus su comment se porter. Elle est allée sur le TikTok et là, elle a vu des vidéos de prière. Elle a commencé à prier. Dans la suite, elle a acheté une Bible. Et finalement, elle a réalisé qu'elle veut faire ça intensément, comme elle le dit. Pas de parents chrétiens, pas d'influence de d'autres personnes, simplement découvert comme ça. Pourquoi je voulais vous montrer cela? Parce que je crois que nous tous, nous faisons partie de ce qui se passe dans cette génération. Ça, c'est pas quelque chose qui est explicable comme avec des phénomènes sociaux, psychologiques. C'est parce que nous prions. Et même si nous ne voyons pas que, si, c'est quelque chose qui se passe comme sous la surface. À la surface, nous voyons un monde qui se trouble de plus en plus, des gros personnages qui pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi. On peut s'imaginer que la Troisième Guerre mondiale, ça va nous taper encore. Plein de choses. Mais en dessous de cette réalité qu'on voit à la surface, il y a une autre réalité qui est en train de se passer. Ça comme introduction à ce thème. Crèche, croix, couronnement. N'est-ce pas? On a célébré Noël. Et si on célèbre Noël, petit à petit, on commence un peu à s'habituer à ce beau sentiment confortable, des bougies, il fait chaud, on a eu toute la famille avec nous, c'était merveilleux, on était 17 personnes, tous les petits-enfants étaient là, et on a célébré et c'était tout doux, tout gentil. Et c'était presque un peu difficile de s'imaginer que cette paille dans la crèche, c'était peut-être un peu piquant. Et ces circonstances de la naissance de Jésus étaient peut-être, aïe, 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 un pouvoir étranger qui ose dire aux gens, vous vous déplacez maintenant, enceinte ou pas enceinte, ça n'importe pas. Et si c'est une semaine de voyage, ben, vous allez vous déplacer, vous allez là où votre famille vient, d'où vient votre famille, et puis là, vous avez besoin de vous inscrire. C'est quand même des circonstances horribles. Un peuple qui attend que enfin il soit libéré de ce pouvoir, enfin cet ancien espoir d'avoir un roi, nous-mêmes, d'être de nouveau un peuple de Dieu. Cet espoir est tellement fort. Ça, c'est les circonstances de la crèche, de Noël. L'accueil est par les bergers. Le premier accueil est par les bergers. C'est pas par des hommes notables. C'est pas avec de l'or tout d'abord. C'est des bergers. Je sais pas. Qui d'entre vous a déjà vécu avec des bergers ou vécu avec du bétail? Ouais, certains. Hein? Ouais. On m'a reconnu en tant qu'enfant que je venais de là. Pourquoi? Alors c'était ça, la réalité là, c'était pas des gens bien parfumés, bon, parfumés d'une autre manière. Pourquoi Dieu naît comme un être humain? Pourquoi il fait ça? Lui qui a tout le pouvoir, lui qui a lancé les étoiles dans l'espace. C'est tellement beau, c'est tellement brillant, il naît dans un étable. Il y avait là une peut-être une réponse que quelqu'un a donnée. C'est un Kurde qui vit dans la région de Bâle. Il a assisté à une célébration de Noël pour des personnes de migration. Et lui, lors de cet événement, il disait, nous les Kurdes, on a peur de Dieu. Mais qui a peur d'un enfant dans une crèche? Ça m'a ouvert les yeux à un aspect que je devais connaître, mais qui m'a jamais frappé. Dieu s'est fait enfant afin que nous ayons pas peur, afin que nous osions nous rapprocher de ce Dieu tout-puissant, afin que la barre soit baissée et on ne sent pas une timidité. Ne craignez point. Ne craignez point. Ça m'a aussi touché ces derniers mois parce que j'ai eu le privilège, j'ai toujours le privilège de faire on ne peut pas appeler ça un cours, de faire un événement. Prenez l'allemand avec la Bible. C'est l'église des frères et église pour Christ qui a des cours d'allemand depuis longtemps. Et puis, ils ont souhaité d'une manière ou d'une autre, on pouvait introduire la Bible. Parce que les cours qui sont reconnus, c'est assez réglementé. C'est des heures précises qu'on doit garder, des contenus précis qu'on doit garder. Mais d'inviter les gens qui ont suivi ces cours, après qu'ils ont fini à 11h, de 11h à 11h30, de lire la Bible, c'est possible. Alors, depuis septembre, ils viennent et j'ai le privilège d'animer ça un peu. Et on a commencé par l'évangile de Luc. Parce qu'on a pensé que l'évangile de Luc, c'est peut-être le plus accessible pour surtout des gens d'arrière-plan d'une autre religion. Et ça m'a vraiment frappé. Combien de fois, dans ces premiers chapitres, ce même mot vient, ne craignez point. Et ce que ça fait avec des gens qui ont vécu des choses horribles. C'est toujours le mardi. Alors, mardi passé, une femme afghane, elle s'est révoltée. Pendant 40 ans, j'ai vécu et je ne connais que la guerre, la mort, la souffrance. Pourquoi il n'y a rien qui se passe? Et dans ces circonstances, ne craignez pas, ne craignez rien. C'est merveilleux. Ça, c'est le contexte. Ça, c'est le contexte de la vie de Jésus. C'est pour ça que j'ai essayé à donner ce titre, crèche, croix, couronne-moi. Il a choisi un autre chemin. Et ça m'a montré un grand contraste énorme. Hier encore, j'ai discuté avec un ancien imam qui est chrétien maintenant, de l'image de Dieu que nous avons. Lui, il a dit, je ne peux pas prier au nom d'Allah. Parce que Allah, tel qu'il est présenté dans le Coran, non, je ne peux pas prier. Il est un menteur, il triche les gens, il les met dans une trappe, il a cité des versets que je n'ai jamais entendus, mais il connaît ça par cœur, il a, depuis sa petite enfance, il n'a que à faire l'école coranique et puis après les études. Bon, en principe, le mot Allah a existé avant cet enseignement coranique. C'était des premiers chrétiens arabophones qui ont utilisé le mot Allah pour prier à Dieu. Allah vient de Eloah, de l'hébreu, qui se trouve dans la Bible. Mais j'ai vu un contraste si fort entre ce Dieu qui est prêt à devenir enfant, à devenir proche, à se faire accessible. Ce contraste entre ce Dieu vivant, vrai, et cette image qui est donnée, pas dans beaucoup de religions, c'est pas exclusivement dans l'islam coranique, dans la religion islamique, ce Dieu cruel, ce Dieu père fouettard, c'est trop doux, c'est beaucoup pire. Mais je me suis imaginé quelles sont nos images qu'on a de Dieu. Zeus, Théos, est-ce que c'est ça qui reste encore dans nos têtes? C'est le mot Dieu que nous utilisons en français, ça vient de Théos, de Zeus, de ce père des dieux divines de Panthéon, comme on appelait en grec. Et c'est pas du tout l'image que la Bible nous donne. Et je crains parfois, nous avons des images, bon, qui se mettent un peu devant l'image que la Bible nous dit. Parfois, il y a comme un diapo qui se met devant entre ce que Dieu nous communique et l'autre. Il y a aussi les dieux nordiques, c'est pas mieux, hein. Odin, c'est le père des divinités nordiques. Got, ça vient de c'était un de ces dieux Goth qu'on a utilisé après pour décrire Dieu en allemand. Est-ce que nous avons encore gardé ce genre d'image? Est-ce que c'est notre tradition qui informe un peu notre image de Dieu ou est-ce que c'est la Bible? Moi, personnellement, j'ai l'impression qu'il y a aussi une image qui marque un peu mon image de Dieu. Et là, c'est l'éducation qu'on doit accomplir quelque chose. On doit être quelque chose, on doit faire quelque chose. Si on fait assez, là, Dieu est content de moi. Et si je ne fais pas assez, il n'est pas content de moi. C'est un peu, ouais, c'est pas vrai du tout, c'est pas l'image de la Bible, mais je pense que c'est resté un peu, et je lutte toujours contre cette image. Je ne sais pas quelle est votre image de Dieu. Je pense quand je vais passer dans les rangs et je vais vous demander, vous allez dire, mais c'est l'image biblique que j'ai. Et je pense, à un grand pourcentage, c'est vraiment l'image biblique que nous avons. Mais essayons à réfléchir un peu sur nous-mêmes. Quelle est cette image que j'ai de Dieu? Est-ce que je crois à Dieu qui peut me tricher? J'espère que non. Ouais, je crois qu'il est important de voir cet Immanuel, de considérer Dieu avec nous, qui nous prend à la main. Un Dieu qui nous aime profondément, si profondément qu'il se rabaisse. C'est incroyable. Est-ce que vous vous sentez parfois rabaissé? Et qu'est-ce que ça vous fait si vous vous sentez rabaissé? Honnêtement, dites-moi, si tu te sens rabaissé, qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur? Oh, pardon. Ça fait mal. Pardon? Ça fait pas plaisir. Ça décourage. Et puis?
Ça me fâche.
Ah voilà, c'est ça que je voulais entendre. Moi, ça me fâche. Et je réagis d'une manière et après je ne sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça. C'est comme quelque chose qui tourne. Et c'est parfois, je dois vous avouer, c'est difficile à me détacher de ça. Et laisser. Parce que souvent, si je me sens rabaissé, c'était même pas pensé comme ça. Un peu comme tu viens de raconter, n'est-ce pas? Tu as écrit quelque chose et c'était pas vraiment ça que. Mais vice versa, ça peut aussi m'arriver que quelque chose a été dit, quelqu'un a eu un certain comportement et je le ressens comme quelqu'un me tape dessus. De se détacher n'est pas facile. Dieu a ressenti tout ça. Il s'est rabaissé pour nous. Ben, je ne connais qu'un seul remède de regarder à Jésus, hein, à ce Jésus dans la crèche. Ça c'est, je crois, un grand remède de traiter ces sentiments de rabaissement. Ce qui m'a aussi fait réfléchir, c'est ce texte que j'ai lu pendant le même temps que j'ai entendu cette histoire du Kurde, hein, qui a dit nous avons peur de Dieu, mais personne n'a peur d'un bébé. J'ai lu ça dans une méditation. Je vais. Là, c'est le résumé, je vais vous lire tout le texte que j'ai lu. Après toutes les prophéties concernant la venue de Jésus, rares étaient ceux qui imaginaient qu'il commencerait sa vie terrestre comme un bébé, qu'il grandirait d'enfant à adulte, comme chacun d'entre nous depuis Adam et Ève. Même durant son ministère, il préférait voir en Jésus un conquérant, un homme puissant, qui renverserait la domination romaine et qui s'installerait comme nouveau roi. Ça, c'était ce qu'on attendait, hein, qu'il prend l'épée et finit avec ces Romains, et finit avec ce rabaissement. On voulait que Jésus manifeste sa puissance d'une manière qui nous donne aussi du pouvoir. Ça allait avec. Hein? Il voulait, il, les Juifs surtout, hein, qui attendaient le Messie, ils voulaient qu'il renverse le pouvoir romain et que eux maintenant, ils sont en autorité. Pourtant, Jésus était humble de cœur. Il a consciemment commencé sa vie terrestre totalement impuissant, né dans une existence ordinaire de sa mère Marie. Uni au Père céleste, tout-puissant et supérieur, Jésus est entré consciemment dans la vie d'un être humain, né bébé, et bébé par nature entièrement dépendant des autres. Cette humilité a caractérisé sa vie et son ministère. Il n'est pas venu pour renverser les gouvernements, mais pour vaincre le péché par son sacrifice d'amour. Et prenant une vie humaine et en la donnant volontairement. Est-ce que c'est la faillite totale? Ah, on peut se demander. Il n'a pas réussi le coup. Il n'était pas roi après. Il était mort. Bon, ressuscité, n'oublions pas, mais quand même. Pour les yeux, dans les yeux des Juifs du temps, il a fait faillite totale. Mais il a vaincu le péché. C'est pour ça que j'ai mis couronnement à la fin. Croix, ben, crèche, croix, couronnement. Réfléchissons un peu sur la vie du Christ. Il est Dieu Tout-Puissant. Il fait partie de la Trinité. Il est Dieu Tout-Puissant. Il était en plein droit de juger. Qu'est-ce qu'il a fait? Il vient comme un serviteur. Il est en plein droit de me faire serviteur, il sert. Lisons ensemble ce texte ici. Voici mon serviteur, dit Dieu, celui que j'ai choisi, celui que j'aime. Oui, peut-être c'est bon de lire ensemble, hein? Je recommence. Voici mon serviteur, dit Dieu, celui que j'ai choisi, celui que j'aime et qui fait toute ma joie. Je ferai reposer mon esprit sur lui et il annoncera la justice à tous les peuples. Il ne cherchera pas querelle, il ne criera pas, On n'entendra pas sa voix dans les rues, il ne brisera pas le roseau qui se ploie, et il n'éteindra pas la lampe dont la mèche fume encore. Il agira encore jusqu'à ce qu'il ait assuré le triomphe de la justice. Tous les peuples mettront leur espoir en lui. C'est un renversement total. Ça ne correspond pas à notre logique. Est-ce qu'il y a d'autres passages bibliques qui vous viennent en tête qui disent la même chose? Ça, c'est d'ailleurs une citation d'Ésaïe, exactement. Bon, c'est plein dans le Nouveau Testament. C'est aussi dans l'Ancien Testament, étonnamment, assez souvent. Mais quand même, on a attendu un roi avec l'épée et pas un bébé. Et dans le Nouveau Testament, il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit? Bon, c'est un peu surprenant de poser la question comme ça. Je vous propose encore un autre texte. Peut-être en lisant, il y a encore quelque chose qui vous vient à l'esprit. Encore ensemble. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, la charge que vous impose est légère. Wow. C'est le même état d'esprit, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que Jésus se décrit. Au psaume 23. Voilà, mon bon berger. Dans les verts pâturages. Ouais. Il me conduit. Ouais. Ou est-ce qu'il y a des actes que Jésus a posés qui décrivent cette attitude? Il n'a plus de condamnation en Christ. Ouais, pour ceux qui sont en lui, ouais. Là, je pense il y a des actes que Jésus a posés qui quand même décrivent le même caractère. Il demande de l'aide. C'est aidez-moi. À qui a-t-il demandé de l'aide? Jésus. Voilà, à la femme samaritaine au puits. Ouais. Voilà, j'ai soif, donne-moi à boire. Il est le souverain. Est-ce que la soif était même un problème pour lui? Dis-moi à boire. Donne-moi à boire. Ouais. À qui demande-t-il encore de l'aide? Par exemple, à Pierre. Prends ta barque et éloigne-toi un peu du bord afin qu'il pouvait prêcher depuis le lac. Voilà, exactement. Hein? Consciemment, il demande de l'aide. Nourrir la foule. Ouais. Il n'a pas fait lui-même, il n'a pas distribué, il a demandé aux disciples. Il y a plein de ces exemples. Je saute un peu en avant, et si je pense à moi, combien de fois je suis d'accord à demander les autres de l'aide? Souvent, je suis trop fier, non? Alors encore sur la vie de Jésus, il ne condamne pas. C'est quand même assez étonnant. Il condamne les pharisiens. Il condamne la religion figée juive qui se cramponne au temple. Oui, là, il y a une condamnation. Mais cette femme de mauvaise vie qui vient lui oindre les pieds, hein? Les pharisiens qui connaissaient bien la parole disaient, mais
regardez celui-ci. Aïe, 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 aïe. Ah ben, ça peut pas être un prophète quand même, hein? Ça va pas!
Ou bien, la femme adultère!
Aïe, aïe, aïe!
Ça c'est fort, hein? Elle a été attrapée, et la loi dit qu'elle doit être lapidée. Et il reste tranquille, là. Il dit, ben, celui qui n'a pas de péché, qu'il jette le premier pied, la première pierre, et après il dit, moi aussi je ne te condamne pas. Je vais aussi faire un saut en avant pour revenir en arrière encore. Combien de fois, moi, je condamne déjà? On condamne même la société dans laquelle on vit, tout comme c'était possible que toute la société croit en Jésus. Revenons en arrière. Il mange avec les gens. Il s'assied, aïe, aïe, on l'appelle buveur de vin. Buveur de vin. Aïe, aïe, aïe. Qu'il y a encore d'autres mots qu'on utilise pour ces gens qui les jeunes allaient dire parti. Voilà, il se met proche des gens. Tout ça, toute cette description, c'est le même thème. Tout ça, c'est pour inviter les gens de le suivre, pour leur faciliter l'accès à Dieu. Il lave les pieds aux disciples. Mais qui est le chef et qui sont les serviteurs? Lui, il est prêt à le faire. Il y a bien d'autres exemples. Encore un verset. Et là maintenant, je veux faire ce saut en avant. Et qu'est-ce que ça signifie pour moi? Ma vie chrétienne, cette vie de Christ, nous avons considéré, et ça signifie quoi maintenant pour moi? Alors, lisons encore ensemble. Mais il m'a répondu, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses afin de la puissance de Christ repousse sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour Christ. Car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Toutefois, si je considère bien, c'est aussi très reposant. En tant que senior qui n'a plus assez de force, c'est très réconfortant. C'est bon que je sois faible. C'est pas si grave que je n'arrive plus la moitié à faire qu'avant. La faiblesse peut être une bénédiction. Mais je n'aime pas les insultes, je n'aime pas les détresses, je n'aime pas la persécution, je n'aime pas les angoisses. C'est vrai, je ne les aime pas. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, c'est l'endroit le plus sûr qu'on peut avoir. C'est l'endroit que Jésus, là il est. Est-ce que vous avez tout juste autre chose qui vous passe en tête encore, qui parle de notre vie chrétienne, comme prenant l'exemple de Jésus? D'accord, j'avance encore un autre verset qu'on va lire ensemble. J'espère que ça nous reste plus. En tout cas, pour moi, c'est toujours comme ça. Hein. Si j'entends seulement, je sors dans la porte et après, je ne sais plus exactement. Et si j'ai fait quelque chose, par exemple comme lire ou comme écrire, ça reste un peu plus. Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour à l'exemple du Christ, qui nous a aimés et a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'agréable odeur plaît à Dieu. Ça va ensemble avec Philippiens 2, où il est question de Christ qui n'a pas pris comme une proie d'être égal à Dieu, mais qui s'est rabaissé, et que notre attitude soit imprégnée, soit à cet exemple. Voilà, le Dieu Tout-Puissant qui a le plein droit de s'imposer se fait accessible pour nous. Avant, peut-être, j'aurais plus argumenté, c'est parce que par cette manière de faire qu'il a pu vaincre le diable. Il est allé à la croix, et c'est à la croix, là où il a atteint le point le plus bas, c'est là où il a vaincu la puissance des ténèbres. Et les ténèbres sont vaincues. Ça, j'ai besoin de me rappeler de nouveau et de nouveau. Et je vous encourage de le déclarer. Parfois, j'ai marché dans mon appartement et j'ai déclaré le diable n'a aucun droit ici. Parce que Jésus l'a vaincu. Parfois j'ai besoin de l'entendre, parfois j'ai besoin de le dire. C'est vrai. Mais j'ai réalisé par cette parole de ce culte que c'est pas seulement pour avoir la victoire, mais aussi pour donner accès aux gens. Cette attitude, ça nous aide à ce que l'évangile passe. Ça rejoint maintenant le premier film. Notre attitude fait l'accès plus facile à des gens qui ne connaissent pas Christ. Cette attitude du serviteur. Voici Philippiens 2 encore. que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui, qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Cette attitude identique peut être bien compris et mal compris. Je pense il y a aussi une bonne traduction qui dit « uni au Christ ». Parce que cette attitude, je ne peux pas me forcer de l'avoir, mais je peux la recevoir. Je peux dire le matin, « Seigneur, remplis-moi. » Moi, je n'arrive pas. Moi, je n'arrive pas à avoir une bonne attitude. Mais toi, tu peux. J'ai l'impression que je l'ai vécu mardi passé. Je vous ai raconté de cette femme afghane qui a commencé à vraiment crier fort parce qu'elle n'a que vécu la guerre, la mort, la détresse, les difficultés, les problèmes. Elle a aussi dit « Et quand est-ce que Dieu fait un miracle pour moi ?» Et elle n'est toujours pas sûre si elle veut être chrétienne ou non. Hein, elle est quand même d'un arrière-plan musulman. Et il y avait 1000 réponses qui me passaient en tête pour lui dire, mais attends, hein, t'as vu? Mais c'était comme si Dieu me disait, sois tranquille, laisse-la parler. Et finalement, c'est ma femme qui a proposé qu'on va prier. Et on a prié, elle était toute contente qu'on peut prier pour elle. Oui, priez. Je dis, je vais prier au nom de Jésus. Oui. Alors, Dieu merci. Honnêtement, j'attends mardi prochain et j'espère, je compte, je suis comme tiraillé de voir que quelque chose de merveilleux s'est passé dans sa vie, que la lumière s'est allumée dans sa vie. Alors, on ne peut pas se forcer d'avoir cette identité, cette attitude identique. Mais on peut la recevoir. On peut recevoir, Seigneur, remplis-moi, change-moi, de nouveau à nouveau, chaque jour de nouveau. Voilà. Et pour finir, réfléchissons. Action steps. Ça c'est du bon français, n'est-ce pas? C'est peut-être plutôt des questions de réflexion que action steps. Au début, n'est-ce pas, on a parlé de l'évangile qui se répand. Et j'ai beaucoup d'espoir, beaucoup d'attente. Je compte vraiment que d'ici un an, ce sera différent que maintenant. Je pense. Je le sens très, très légèrement avec certains jeunes qui viennent maintenant dans le culte allemand. Et parfois, je suis vraiment ébahi à quel point que certains veulent vraiment aller avec le Seigneur. Alors, j'attends que beaucoup va se passer encore. Mais je ne l'ai pas dans mes mains, je ne peux pas le produire, je sais que Dieu est là. Alors, réfléchissons sur cette question, comment puis-je former ma joie dans la faiblesse, à l'exemple de Paul. Comment puis-je la recevoir? Comment puis-je la cultiver? Comment? Qu'est-ce que vous pensez? Ben, réfléchissez tranquillement là-dessus. Après, on va prier. Comment je peux être uni à Christ et cultiver cette union avec Christ? Et avant que je veux terminer par la prière, j'aimerais quand même ouvrir encore, demander, est-ce que quelqu'un veut donner une réponse à ces questions? Seigneur Dieu, tu es un Dieu merveilleux. Et quel contraste que tu t'es rabaissé, que tu es devenu enfant, que tu as vécu une vie humble dans cette terre, sur cette terre, et qu'à la fin tu étais d'accord d'accepter comme la faillite et c'était la grande victoire. Nous te louons, nous te bénissons que réellement tu as vaincu la mort, que la mort ne peut plus être un ennemi pour nous parce que toi, tu as ouvert la porte. Seigneur, en ce moment, nous voulons tous nous confier entre tes mains, de dire oui, change-nous, et nous voulons aussi te dire merci, parce que c'est sûr qu'à travers de nos vies, il y a d'autres vies qui sont changées. Même si nous ne le voyons pas, mais c'est notre grand souhait que ça se passe comme toi tu as donné l'exemple, que nous puissions le suivre et le vivre. Amen.